Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour.
Bienvenue dans cette première émission 2024. 2024, l'année où nous avons décidé de dire non.
Ouais, alors à quel moment est-ce qu'on dit non, ce n'est plus acceptable, je suis empêchée de vivre en paix, de dire non, de résister. C'est de cela dont il s'agit dans cette émission, il n'y a pas que le 8 mars aujourd'hui. Résister ici, résister là-bas, hier et maintenant. Nous vous offrons un plein d'énergie en ce début d'année 2024 pour résister à tout ce qui nous assaille ici et là-bas.
Quand on a échangé autour du sujet de l'émission, il y a une phrase qui m'est tout de suite venue en tête. Si les femmes étaient au pouvoir, il y aurait moins de guerre. Quand on est féministe, on pourrait vite être tenté par l'idée de propager cette théorie. Mais en vrai, dans la réalité, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? J'ai posé la question à Véronique Garrigue. Elle est docteure en histoire moderne et travaille autour de la question du genre dans les conflits armés.
Ça fait partie des clichés autour de la nature des femmes qui seraient douces, pacifiques et qui mettraient un peu de paix dans les ménages et ailleurs. Et en fait, on a plein d'exemples en histoire, quelle que soit la période, où c'est en fait totalement faux. Alors, soit elles interviennent parce qu'elles prennent les armes. Alors, elles peuvent intervenir pour régler des conflits également. On peut donner différents exemples. Et puis, c'est du côté des recherches des historiens, des historiennes aussi. Ça a été longtemps un tabou, cette violence des femmes. On les a souvent vues comme victimes. En revanche, on a difficilement pensé qu'elles pouvaient être à l'origine de violences, d'actes qui faisaient couler le sang, hein, parce que c'est le principal tabou qui tourne autour. Donc les clichés ont la vie dure.
Les femmes guerrières ont bel et bien existé, mais encore faut-il les représenter. Véronique Garrigue m'explique ensuite que finalement, on a très peu de représentations des femmes en action dans les conflits armés. Les premières représentations seraient des dessins, plutôt à partir de la Révolution française, mais encore très stéréotypées. C'est avec l'avènement de la photographie, et notamment l'arrivée des femmes photographes, qu'on les voit un peu plus. Elles deviennent même des éléments de propagande pour les Viet Cong, pendant la guerre du Vietnam. Dans les manuels scolaires, elles sont parfois représentées par de simples petites vignettes, comme si elles étaient des exceptions.
Et c'est effectivement difficile de les mettre sur le devant de la scène sans en faire des figures d'exception. Donc, Jeanne d'Arc, c'est la figure emblématique, mais ça a été la même chose pour les résistantes. On a souvent pensé, d'ailleurs, pour les hommes aussi, hein, les actes de résistance comme étant avec des armes à la main. On peut résister parce qu'on va cacher quelqu'un, parce qu'on l'accueille, parce qu'on soigne, parce qu'on donne à manger, parce qu'on ne le dénonce pas aussi, sous la torture ou non. C'est beaucoup plus facile de mettre des personnes avec un statut exceptionnel, renvoyant toutes les autres à leur foyer ou à d'autres activités, mais sans doute pas celle-là. Donc c'est vraiment sous le régime de l'exception. Ou alors, soit elles sont exceptionnelles, soit elles sont pionnières. Enfin, on a les deux versions actuellement. Donc, soit tout d'un coup, c'est la première A, qui est toujours un petit peu compliquée parce qu'on finit par se rendre compte qu'il y avait peut-être d'autres auparavant. Et puis, l'exception, ça montre aussi que finalement, certaines peuvent accéder au masculin ou à ce qui serait des registres de la virilité guerrière. Dans le domaine sportif, on le voit souvent aussi, exactement. C'est exactement le même vocabulaire qui apparaît. Et puis, ça renverrait les autres à un domaine, celui du quotidien, de la banalité. Alors que, par définition, quand il y a un héros, lui aussi est exceptionnel dans son domaine, et prendre des femmes et leur donner ce titre d'exception, c'est effectivement dire aux autres qu'elles ne pourraient pas avoir leur place dans ce domaine.
La figure de la résistante, telle qu'on l'imagine, doit donc être réinterrogée. Finalement, elles étaient plus nombreuses que les manuels d'histoire nous le laissent penser.
Oui, c'est vrai. La résistance, elle vient avant tout de la société civile. Dans un podcast que j'ai écouté, qui est réalisé par Philippe Collin, qui s'appelle « Les femmes résistantes en lutte contre le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale », et qu'on peut écouter encore maintenant sur France Inter, Claire Andrieux, qui est historienne, dit.
Il me semble que si on se reporte aux conditions des femmes à l'époque, cela peut s'expliquer parce que environ la moitié des femmes étaient au foyer à l'époque, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que la moitié des femmes avaient une culture politique spécifique, celle qu'on peut se créer quand on passe sa journée à s'occuper des enfants et du ménage et autres tâches matérielles. Et on n'a donc pas le temps de lire, de se cultiver. Par conséquent, on a un rapport aux faits politiques assez simple. C'est conforme à ma morale ou ça ne l'est pas. Et de ce fait, si ce n'est pas conforme à ma morale que mon village soit occupé par les Allemands et que les récoltes de mon mari doivent partir pour moitié ou plus dans les wagons allemands, eh bien je vais dire non, très vite. Donc il y a une espèce de liberté de la femme au foyer et de simplicité de l'analyse. Mes enfants ont faim, ce n'est pas moral. Et de ce fait, on peut... C'est difficile à démontrer de près, mais on peut postuler que les femmes ont une prédisposition à résister dans ces circonstances qui va être plus marquée que les hommes. Pour certaines activités de résistance, les femmes sont en première ligne, notamment quand il s'agit d'aider à l'évasion. Le fugitif, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche de quoi manger, de quoi boire et de quoi être abrité la nuit. Donc il frappe aux portes. Et qui est à la maison ? Ben, c'est la femme au foyer, et dans la campagne, c'est la femme du fermier. Et donc, elles sont les premières à prendre une décision qui est décisive. Parce que si elles ouvrent la porte, elles se trouvent enfreintes une ordonnance de l'occupant qui est radicale. C'est la peine de mort pour abriter des soldats ennemis. Ces femmes deviennent résistantes parce qu'elles ont ouvert la porte.
Alors, le réalisateur suit 5 femmes connues, et puis certaines inconnues, pendant les 5 années de lutte contre le nazisme. C'est intéressant de voir que certaines étaient actives, mais avant la déclaration de guerre. On ne devient pas résistante comme ça. Il y a des gens qui étaient résistants déjà avant dans l'âme. Écrire des tracts, les distribuer, accueillir des réfugiés, créer des lieux d'accueil pour les enfants en danger, faire des faux papiers, soigner, entre autres actions, chanter aussi. Alors plus près de nous... À la même époque, des femmes qui ont eu un parcours dans l'Ain, c'est comme ça que Catherine Ravana présente le travail de recherche qu'elle effectue depuis de nombreuses années et à laquelle je demande, alors c'est quoi résister ?
C'est une drôle de question. Je pense qu'on résiste quand on s'oppose à l'inacceptable, tout ce qui touche à l'être humain et qui risque de déstabiliser des gens, des familles, un pays. Je pense que c'est ça la résistance.
Alors, Catherine dit bien qu'elle n'est pas historienne et qu'elle ne fait que relater et parler de femmes qu'elle a rencontrées dans les lectures et dans ses recherches d'histoire. Et je lui demande, mais alors ici dans l'Ain, est-ce que vous auriez quelques personnes à nous citer ? Voilà ce qu'elle dit.
Oh ben, on ne peut pas ne pas parler de Zlatine quand même. Madame Zlatine, ça a quand même été Isieux, quoi. Ici, on ne peut pas l'oublier. Il y a des tas de femmes à Oyonnax, par exemple, bah, les sœurs Moiroux, qui étaient très connues, qui ont fait beaucoup de résistance pour aller alimenter les réseaux du Pays de Gex, dont on a parlé. Elles sont reconnues sur Oyonnax, certes, mais je pense qu'elles ont fait des... Elles ont traversé les montagnes pendant des mois pour aller alimenter les réseaux du Pays de Gex, et c'était pas facile depuis Oyonnax. On n'en a pas beaucoup parlé. Sur le secteur-ci, mais pas tellement sur le reste du département. On voit que beaucoup des femmes résistantes étaient ou issues de l'éducation nationale ou de familles issues de l'éducation nationale. Alors, peut-être que ça a été une facilité, d'abord parce qu'en termes de connaissances, de lecture, de raisonnement, elles avaient accès à d'autres éléments que n'avaient peut-être pas les femmes qui étaient dans des campagnes un peu perdues. Oui, beaucoup ont été membres actives. Issue du monde de l'éducation, c'est vrai. La pharmacienne, la femme du docteur Mercier de Nantua, qui gérait, bon, puisque le mari a été dénoncé, a été raflé et tué rapidement à côté de Nantua, et qui continuait, elle était pharmacienne, elle avait 5 enfants, et elle continuait d'alimenter les réseaux d'un hôpital de campagne, je crois qu'on dit comme ça, au Kretschalam, où elle emmenait les médicaments et elle allait soigner les résistants, tout en continuant à s'occuper des réseaux aussi sur la Suisse, puisqu'elle était originaire de Suisse et qu'elle essayait de faire passer des gens en Suisse pour les protéger. Alors, Madame Ravier, ils avaient été dénoncés avec son mari, par des gens de Bourg d'ailleurs. Donc, ils étaient allés se réfugier dans les grottes qui sont autour de la cluse des hôpitaux. Et il fallait aller chercher de l'essence. Et là-bas, il y a au moins 2 passages à niveau qui étaient gardés par les Allemands. Et comme son père avait eu un garage, elle savait conduire très jeune. Donc, elle allait avec sa copine chercher de l'essence en voiture. Elle passait les deux passages à niveau gardés par les Allemands qui jamais ne leur ont demandé quoi que ce soit. Donc elles ont approvisionné en essence les réseaux pendant des mois à la barbe des Allemands qui n'auraient jamais pensé que ces deux jeunes filles pouvaient transporter de l'essence pour la résistance.
Voilà, donc elle a, là, c'est quelques exemples, mais bon, Catherine Ravanna a plein de personnages qu'elle peut nous faire découvrir. Entre autres, je reviens à une résistante qui s'appelle Lucie Omrac, qui a traversé le département de l'Ain et qui fait partie d'une, c'est une des personnes donc qui est suivie par le podcast. Alors elle a œuvré dans la région à ce moment. Elle disait qu'elle, quand elle rencontrait des élèves, alors après, bien sûr, après, quand elle a rencontré des élèves et qu'elle travaillait contre, elle continuait son combat contre le fascisme, ce qu'elle disait, c'est une forme de responsabilité dans la vie, c'est de savoir désobéir quand on veut nous faire faire quelque chose d'inacceptable. Bon, elle disait ça dans un cadre scolaire. Bon, ça nous fait un petit peu rigoler.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières.
Une forme de résistance, je le disais tout à l'heure, c'est chanter. Là, on vient d'entendre Annie Marly, qui est une autre résistante russe, qui est chanteuse, qui est guitariste, et elle a composé, alors c'est pas ce qu'on vient d'entendre maintenant, mais le chant des partisans, qui est hyper connu, avec des paroles de Maurice Druon et de Joseph Kessel. Et là, on était sur la complainte des partisans, où elle a fait aussi la composition, et c'est une musique qui a été reprise, des chansons qui ont été reprises, entre autres par Leonard Cohen, et puis qu'on entend beaucoup dans plein d'autres pays.
Cet espace de vie, ce lieu de résistance, de lutte, il prend aussi parfois la forme de l'école. Ça se passe en Afghanistan, un pays que l'on associe au mot « guerre » depuis des dizaines d'années. Michel, tu es allé à la découverte de ces résistantes.
Le droit à l'éducation est un droit fondamental et inaliénable pour les enfants. C'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Un seul pays interdit strictement l'éducation aux filles et aux femmes sur son territoire, c'est l'Afghanistan. Au moment de leur prise de pouvoir, les talibans ont d'abord tenté de rassurer l'opinion internationale, mais en mars 2022, des millions d'Afghans ont été chassés des collèges et des lycées. Quelques mois plus tard, le ministre de l'Enseignement supérieur a carrément annoncé la suspension de l'éducation des femmes jusqu'à nouvel ordre, privant cette fois des millions de femmes du droit à l'éducation supérieure. En Afghanistan, la scolarité des filles s'arrête donc à 12 ans, et encore quand elles vont à l'école jusqu'à 12 ans. On devrait assister très vite à une recrudescence des mariages forcés, des grossesses précoces et à l'augmentation de la mortalité infantile, déplore l'UNICEF. Le pays se retrouvera forcément à nouveau dépourvu d'enseignants, d'infirmières ou de médecins, puisqu'elles ne seront jamais formées. Partout dans le pays, et surtout à Kaboul, la résistance s'organise. Parasto Hakim, qui est né en 97 et qui a travaillé pour l'administration précédente et qui a quitté l'Afghanistan, milite pour l'éducation des femmes et des filles dans son pays. Elle vit maintenant en exil. Autour d'elle, elle connaissait des enseignantes prêtes à faire quelque chose, des élèves désireuses d'étudier. Des classes informelles existaient au domicile des professeurs courageuses, mais tenaillées par la peur d'être démasquées ou dénoncées. Pourquoi ne pas ouvrir des écoles clandestines, a-t-elle pensé. Elle allouait alors des pièces dans une maison, puis dans une autre. Très vite, trois écoles clandestines se sont ouvertes à Kaboul, puis à Banyan et Mazar et Sharif et bientôt à Herat. 11 dans tout le pays. 43 filles sont immédiatement inscrites par leurs parents. Elles ont entre 13 et 18 ans. Des chiffres qui peuvent paraître dérisoires, mais qui représentent un véritable exploit au vu de l'enseignement talibanesque. Aujourd'hui, il existe des dizaines d'écoles clandestines dans tout le pays, défendues par les élèves, les enseignants, mais aussi par des pères au péril de leur vie.
Et comment ça se passe dans ces écoles clandestines ?
Des reportages décrivent la réalité de ces écoles clandestines. Ici, une classe complète d'au moins 30 jeunes femmes, assises en rang, toutes vêtues de noir, à l'exception de leur foulard blanc ou à motif. Leur professeur, lui aussi entièrement vêtu de noir, se tient près d'un tableau blanc. D'après les diagrammes qu'elle a dessinés, je suppose qu'il s'agit d'un cours de biologie. Là, une autre enseignante raconte « Cela fait 6 mois que je suis enseignante », dit-elle, craintive. « Mon frère me dit souvent, s'il te plaît, quitte l'école. Il se peut qu'un jour les talibans viennent. Ce sont mes parents qui m'ont persuadée de rester et d'enseigner à mes sœurs. Mon université a également été fermée. Je veux donc aider les filles d'ici à étudier. » Ailleurs, racontent les journalistes, ce sont des parents qui, sans se décourager, se sont mis à la recherche d'une école secrète. Ils ont trouvé un couple, un mari et une femme, qui ont transformé leur maison en salle de classe. Chaque matin, on emmène les filles au marché aux légumes et elles rejoignent l'école secrète. Mais les talibans l'ont appris. Ils ont fait une descente à l'école et ont emprisonné les professeurs pendant 15 jours. Après leur libération, le couple a fui l'Afghanistan.
Et femmes vont-elles se contenter de ces écoles clandestines ?
Dans la revue des Deux Mondes, une autre Afghane en exil, Shebeka Hashemi, s'exprime sur son pays. L'interdiction de l'éducation des filles a interpellé les dirigeants politiques de la communauté internationale, qui jusque-là affirmaient que c'était des talibans modérés, avec qui on pouvait négocier. L'éducation des filles est une monnaie d'échange pour les talibans, qui attendent la reconnaissance occidentale de l'ONU, des États-Unis et des pays européens. Ils ouvrent des écoles pour quelque temps, puis le referment parce qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils veulent, par exemple sur le plan bancaire. Les femmes afghanes ne sont plus dupes. Ces femmes qui sont allées à l'école sous les autorités précédentes risquent leur vie, mais sont toujours debout. Elles sont capables de gestes de résistance sans précédent. Les talibans devront faire avec. Les Afghanes de 2022 ne sont pas celles de 1996. Celles qui ont vécu le régime taliban entre 1996 et 2001 n'ont aucune envie de le revivre. Les femmes organisent des enseignements parallèles, des écoles clandestines, mais ce n'est plus le but. Elles veulent surtout tout changer. Elles ne veulent plus se cacher. Elles veulent exister. Si elles ne peuvent pas manger, travailler, se faire soigner, envoyer leurs filles à l'école, elles préfèrent se battre, quitte à mourir. S'organiser dans la clandestinité ne leur suffit plus. Que des ONG créent des écoles parallèles revient à réduire la situation en Afghanistan à un simple problème local qui fait prendre des risques aux femmes, aux salariés, aux professeurs. Il ne suffit plus de créer des salles de classe dans une maison. Les femmes meurent de faim. Leurs droits élémentaires sont bafoués et leurs revendications vont donc maintenant beaucoup plus loin. La résistance afghane aujourd'hui, ce sont les femmes. Nous continuerons à résister. Il y aura peut-être un jour de la lumière au bout du tunnel.
La lumière, on la souhaite toutes et tous vivement pour les femmes au cœur des guerres qui minent notre monde en 2024. Un autre front de résistance du côté de la Palestine, Joëlle.
Oui, évidemment, la Palestine en ce moment-là, depuis quelques mois, pas que quelques mois, mais critique depuis quelques mois. Je commencerai par une tribune que j'ai trouvée sur Mediapart, qui est signée entre autres par la sociologue Fabienne Messica et qui commence comme ça. Femmes, victimes de viols dans des actes de guerre, qui que vous soyez, israélienne, palestinienne ou de tout autre pays, on vous croit. La lecture très féministe de ce texte m'a intéressée, parce que ce n'est pas toujours une analyse qu'on entend sur nos antennes. En tant que féministe, donc je lis, hein, en tant que féministe, condamner, quels que soient leurs auteurs, les viols, les violences sexistes et sexuelles, qui sont des crimes contre l'humanité, révèle de nos fondamentaux. Notre critique du patriarcat, de la glorification de la guerre, de la violence, de la puissance de l'esprit militaire et du nationalisme, et du colonialisme qui font système reste entière. Nous savons que la guerre joue un rôle essentiel pour perpétuer les innombrables dominations, tandis que les femmes occupent une place spécifique dans la stratégie guerrière, faire des enfants. Les garçons seront des soldats et les filles feront des enfants. Ce texte, qui fait allusion aux guerrières de la paix, qui est un mouvement qui s'est créé il y a pas très très longtemps, un mouvement féministe mixte créé il y a un an en France, voilà, qui milite avec les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes dans la continuité des femmes en noir. Mouvement israélo-palestinien qui avait été créé en 1988 pour mettre fin à la colonisation. Et du coup, à ce sujet, j'ai lu un livre qu'on m'a recommandé qui date de cette période et qui s'appelle « Le cri des oliviers ». Une palestinienne en lutte pour la paix. Alors ce livre est sorti en 2003. Il y a donc 20 ans, sur Maya Fartanasser, relate les rencontres entre femmes palestiniennes et israéliennes. Leur but est de chercher des solutions de paix avec l'immense difficulté de s'écouter entre elles, de s'entendre, d'apprendre à connaître, à accepter l'histoire de l'autre. Pour les Palestiniennes qui ne connaissent pas l'histoire de la Shoah, pour les Israéliennes qui ne connaissent pas l'histoire de la Nakba. Donc, il y a tout ce travail à faire, reconnaître la souffrance de chaque peuple et en même temps proposer des solutions. Construire la paix, même si certains vivent colonisés et d'autres qui sont dans le pays des colonisateurs. Même si les conditions de vie au jour le jour n'ont rien à voir, par exemple, se déplacer en Palestine, ça met énormément de temps avec tous les checkpoints, alors que de l'autre côté, non. Se loger. Croiser des militaires en armes, ça fait évidemment pas le même effet, et cela il y a plus de 20 ans. Ici, loin des conflits, alors nous, on est observateurs. La résistance, c'est relayer, amplifier les voix qui nous viennent, écrire, manifester son soutien aux opprimés, témoigner. Il y a ici, et puis de partout en France, il y a des associations qui organisent des voyages en Palestine, Israël. Alors, actuellement, j'imagine pas, mais en tout cas, il y a déjà quelques temps, Bernadette Bardet en a réalisé plusieurs, que ce soit avec le CCFD Terre Solidaire, qui accompagne des projets, ou l'association France-Palestine Solidarité, et voilà ce qu'elle en dit.
L'an dernier, au mois de novembre 2022, on a rencontré donc une responsable d'une association de journalistes femmes. Qui se revendiquent association de journalistes femmes, même si dans leurs actions elles rejoignent des hommes ou mais pour plusieurs choses, parce que d'abord c'est très difficile dans un monde de médias de se faire sa place en tant que femme. Je crois que ça on le retrouve dans beaucoup de civilisations. Et puis très difficile aussi parce que là-bas le poids du patriarcat est quand même très fort. Et puis très difficile, en premier lieu, par l'occupation. Parce que quand on est femme, journaliste, et qu'on va sur le terrain après une attaque dans le camp de Jenin ou dans le camp de Naplouse, c'est pas évident. Et elle nous disait que jusqu'à l'an dernier, quand elle nous parlait, les policiers, les soldats avaient quand même un certain respect des femmes. Ils n'allaient pas les attaquer comme ça, d'un seul coup, enfin voilà, très spontanément, mais que maintenant, ils y allaient gaillardement. Donc, quand elles sont sur le terrain, c'est compliqué, autant que les hommes. Voilà, et donc, elle nous disait toute cette lutte qu'elle mène, et aussi son appréhension par rapport au mot féminisme. Parce qu'elle dit... que, par exemple, elle nous disait qu'en Palestine, il y avait une association de femmes qui était liée à l'autorité palestinienne et qu'elle avait voulu aller y participer et qu'elle avait trouvé que c'était pas, voilà. Il y a aussi un féminisme qui s'affiche et qui n'est pas forcément une vraie défense et une vraie lutte des femmes. Je peux pas bien vous expliquer plus. Voilà ce que j'ai retenu de ce qu'elle disait. Elle avait beaucoup insisté aussi sur le problème que ben, tout ce qui se vit en Palestine à l'époque, hein, en novembre, c'était le moment de la mise en place du gouvernement ultranationaliste en Israël. Donc tout ce qui se vivait là-bas, elle le reliait beaucoup à tout ce qui se vivait dans le monde entier. Et qu'elle nous disait que notre lutte, elle n'était pas seulement pour la Palestine, elle était mondiale. Et qu'il fallait faire rejoindre les luttes mondiales pour les femmes, mais plus général encore, pour le monde, quoi, enfin, pour, sur le plan politique au niveau mondial.
Après, je lui dis, je lui demande, c'est quoi la résistance, les résistances des femmes en Palestine? Qu'est-ce que tu as vu, toi?
Ben, c'est un peu compliqué, hein. Par exemple, j'ai l'exemple là d'une journaliste. Alors, je n'ai pas précisé que cette association, elle avait un siège à Ramallah et un siège aussi à Gaza.
Est-ce que tu peux nous redire quel est le nom de cette association?
C'est Filastignat. Filastignat, ça veut dire Palestine au féminin. Il y a des journalistes qui font partie de l'association qui sont à Gaza. Et donc, il y a une journaliste de Gaza qui est interviewée dans ce petit journal-là et qui dit que au début, elle a fait beaucoup, beaucoup de reportages. Elles sont en freelance, c'est pas un média, donc elles sont en freelance. Elles écrivent et puis elles proposent aux différents médias. Et qu'elle disait que quand elle avait fait 10 ou 15 articles, il y en avait un ou deux de retenus parce que bah, dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans un monde d'hommes, c'est difficile de se faire son trou. Mais que plus ça allait, plus ça progressait. Alors, je saurais pas dire le chiffre d'audience, hein, j'ai pas ce... Mais elles ont maintenant, oui, elles sont reconnues et elles sont appelées par certains médias pour aller sur le terrain et pour faire des reportages et pour travailler.
Voilà, et puis je lui demande, ça c'était quand tu y étais, mais maintenant, est-ce que tu as des relations avec ces femmes? On est en janvier 2024. Qu'est-ce qui se passe?
Alors bon, les relations sont difficiles, hein, parce que bon, déjà globalement, les Palestiniens et Palestiniennes écrivent très peu. Ils parlent beaucoup, mais ils écrivent très peu. Donc c'est difficile de correspondre. Mais là, on a envoyé des mails plusieurs fois, et donc la directrice de Filastignat nous a répondu deux ou trois fois, et nous a beaucoup renvoyé sur Facebook, Instagram, où il propose beaucoup, beaucoup de vidéos, de témoignages sur des gens de Gaza en ce moment. Donc ça, c'est un lien qu'on peut avoir par Facebook ou Instagram. Bon, déjà, elle nous remercia beaucoup pour nos messages parce qu'ils ont terriblement besoin de soutien et de savoir que malgré ce qu'ils sentent des médias chez nous et de nos politiques, ils savent qu'il y a des gens qui les soutiennent et ça, c'est très, très important pour eux. Donc, il faut qu'on continue à le faire savoir. Et sinon, j'ai lu des articles où on voyait que Filastignat, donc depuis Ramallah, essayait de rester en contact avec tous les journalistes. Il y en a 300 journalistes affiliés à leur association sur Gaza. Et donc, rester en contact avec eux, avec elles, et leur apporter une aide parce que la première résistance, c'est de pouvoir survivre, en fait. Et que c'est leur permettre de survivre à Gaza, c'est déjà important. Et elle disait dans un article que, par exemple, des femmes de Gaza, journalistes, qui étaient dans le nord, ont dû se rapatrier dans le sud. Et l'association, elle soutient toutes ces femmes, aussi bien sur le plan psychologique, parce que... Enfin, moi, j'ai de la peine à imaginer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la vie qu'elles ont, mais on imagine que c'est très, très dur. Et sur le plan financier, et par exemple, elles font, par exemple, là, dans l'hôpital où elles sont réfugiées avec d'autres, donc c'est des milliers de réfugiés, donc aucune intimité, rien. Ben, l'association a fourni des tentes aux femmes pour qu'elles puissent avoir un coin à elles, un petit peu d'intimité. Elle fournit tous les produits d'hygiène qu'elles ne trouvent pas là-bas, enfin, etc. Voilà, c'est une des formes de résistance. Il y en a certainement d'autres. Il y a une femme, là, j'ai regardé sa vidéo sur Instagram, une femme journaliste qui témoigne comment elle continue à aller sur le terrain et qu'elle sait qu'elle sait pas, enfin elle ne sait pas si elle sera encore vivante. Voilà.
Voilà, donc en préparant ce sujet, là, moi j'ai trouvé alors des dizaines d'articles écrits en ce moment qui relatent plein de formes de résistance. Alors par exemple, l'appel à l'objection de conscience par des jeunes israéliens ou israéliennes qui du coup se retrouvent en prison. Des rencontres entre non-belligérants, des magazines en ligne, comme par exemple un magazine que j'ai découvert qui s'appelle Plus 972, dont le nom est emprunté au code international qui est partagé entre Israël et la Palestine et qui est diffusé à partir de Tel Aviv. Voilà, le pacifisme, par contre, n'est pas partagé par toutes les femmes, parce que sur place, face au danger, le risque pris est celui de la mort ou de l'emprisonnement. Alors, les mots choisis ne sont pas toujours ceux qui sont l'appel à la paix. Et en 2019, par exemple, lors des rencontres organisées sur le plateau des Glières, ici dans l'Ain, enfin non, pas dans l'Ain, le plateau des Glières,
Dans notre région.
Une poétesse palestinienne qui est issue d'une famille qui a pu rester, elle, sur le territoire israélien, qui s'appelle Darren Datour, elle est venue témoigner. Et parce qu'elle a posé une vidéo où elle lit un poème appelant à la résistance, elle est emprisonnée et elle reste en résidence surveillée pendant 3 ans. Et ce qu'elle dit, c'est tenir bon, dit-elle, maintenir ma liberté d'expression, la poésie. Mise en prison pour un poème, j'en suis sortie en ayant écrit une dizaine et un livre. Et voici quelques vers, le début de ce poème. Résiste mon pays, résiste-leur, résiste mon peuple, résiste-leur. À Jérusalem, je me suis habillée de mes blessures et j'ai respiré mes douleurs et j'ai porté l'âme dans ma paume pour une Palestine arabe. Je ne succomberai pas à la solution pacifiste, je ne baisserai pas mes drapeaux. Darren Datour a participé à un livre qui s'appelle Samoud, qui est une parole de résistance des prisonnières palestiniennes, un livre qui vient de sortir. La résistance ne s'arrête pas aux portes des prisons. Et même à l'intérieur, les méthodes de résistance qui sont utilisées par la plupart des détenus politiques. Bon, alors elles font la grève de la faim, elles refusent de sortir de leurs cellules, elles désobéissent aux ordres des gardiens de prison, elles s'entêtent à réitérer des revendications, et puis aussi elles font une grève de l'hygiène. J'ai pas compris exactement ce que c'est. On peut imaginer, mais j'ai pas trouvé exactement ce que c'était. Voilà, la résistance, autrement dit, peut être active, en direct, ou dans d'autres cas, passive. Merci Camélia Joubran pour cette respiration musicale.
À l'heure des réseaux sociaux, hein, on l'a vu, ils sont importants ces réseaux sociaux. L'image de la femme guerrière, elle peut avoir une importance. On pense aux femmes militaires dans l'armée israélienne qui ont été à un moment mises en avant, aux combattantes ukrainiennes ou encore aux femmes kurdes dont on a tous des images qui peuvent arriver en tête là, quand je vous énonce ces noms de femmes. Véronique Garry, que vous avez pu entendre en début d'émission, est spécialiste de la question du genre dans les conflits armés.
Alors, c'est finalement trois situations qui sont différentes. Israël, parce que, en l'occurrence, là, le service militaire, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Donc, par définition, alors même si elles sont moins souvent exposées au combat, elles le sont quand même, mais il y a cette volonté dès le départ d'inclure aussi bien les hommes que les femmes. Ce qui est aussi le cas du côté des Kurdes, mais avec des régiments qui sont spécifiques, alors qui ont pu être exclusivement féminins et qui parfois peuvent être mixtes, mais c'est plus rare. Et puis, c'est lié aussi à une idéologie derrière, hein, d'égalité au sein de cette société, avec un fondement idéologique derrière qui explique cette situation, mais qui a été mis en avant par la propagande, parce que face à des adversaires qui, eux, justement, sont plutôt virilistes, se faire tuer par une femme, bah forcément, c'est au-delà de se faire tuer, c'est la honte absolue. Donc forcément c'est mal vécu. Et puis du côté ukrainien, oui, ces femmes qui combattent, bah, elles sont pas les femmes peuvent aller combattre, d'ailleurs bon, souvent elles sont quand même pas forcément dans les unités qui sont sur le front, même s'il y en a quelques-unes, des mises en scène pour montrer finalement que toute la société est mobilisée, mais ceux qui ont été véritablement mobilisés, ça reste les hommes, ce sont les jeunes gens à partir de 18 ans qui eux n'ont eu interdiction de quitter le territoire. Ce n'était pas le cas des femmes. Donc les femmes peuvent combattre, d'autant que tout le pays est attaqué. Donc c'était aussi un signe fort qui était envoyé aux adversaires. Donc effectivement, c'est de la propagande. C'est aussi une réalité. Mais en attendant, de ce côté-là, les Ukrainiens restent très traditionnels dans leur conception de la conscription. Alors, on peut y trouver ça positif ou pas. Mais là le problème, c'est effectivement les femmes peuvent être utilisées à des fins de propagande.
On a évoqué les femmes kurdes et la résistance armée dans l'échange avec Véronique Garrigue. Natacha, toi, tu as deux supports à nous présenter pour en savoir plus sur cette armée de femmes.
Oui, en effet. Alors, partons au Moyen-Orient, aux frontières entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak, à la rencontre des résistantes kurdes, avec d'abord une bande dessinée Kobané Colline de l'auteur italien Zero Kalkar et un film documentaire Kurdistan, la guerre des filles, de la réalisatrice française Mylène Saulois. Les Kurdes sont un peuple sans État qui lutte depuis des décennies contre la répression et pour son autodétermination. Dans sa BD Kobané Colline, parue en 2016, Zero Kalkar nous raconte sous la forme d'une sorte de carnet de route les deux voyages qu'il a réalisés à la rencontre des résistants et résistantes kurdes en 2014 et 2015. Écoutons-le évoquer la genèse de cette BD pour France Culture en 2018.
En 2014, quand les médias ont commencé à parler du siège de Kobané par Daesh et ont commencé à montrer ces images des femmes combattantes et tout ça, on s'était dit quand même que quelque chose était en train de se passer là-bas, mais on comprenait pas très bien parce que c'était très superficiel la façon dont on nous expliquait jamais comment est-ce que c'était possible que dans un endroit au Moyen-Orient et tout ça, maintenant il y avait une ville qui était tenue par des combattantes résistantes, femmes et tout ça. Donc on a rappelé les Kurdes, on leur a demandé, écoutez, vous voulez bien qu'on se rencontre et vous nous expliquez un peu qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ils nous ont raconté de cette en fait de révolution, d'une révolution qui était en cours et qu'ils étaient en train de faire depuis que la guerre civile contre Bachar al-Assad avait commencé, que le régime avait perdu le contrôle de certaines zones. Les Kurdes, ils avaient essayé une révolution qui se fondait sur des mots d'ordre qui étaient vraiment très proches de nous, pas de l'Occident tout simplement, vraiment de notre milieu. l'émancipation des femmes, mais aussi un rapport écologique avec les territoires et tout ça, mais aussi la redistribution des revenus, la coexistence et cohabitation des différentes cultures et religions et tout ça. Et donc, on s'était dit que ça aurait été bien de...
D'y aller voir.
Ouais, et de aider, les aider aussi.
Oui.
Donner des médicaments, des trucs comme ça.
La résistance des femmes kurdes n'est pas le sujet unique de la BD Zéro Calcaré, mais à la faveur des rencontres faites sur place, il rencontre en fait de nombreuses femmes pendant ces deux voyages, il est amené à décrire de manière éclairante le rôle central des femmes kurdes dans la lutte contre l'oppression, qu'il s'agisse de Daesh ou de la répression par les forces gouvernementales turques. Alors sans angélisme vraiment, sans romantisme non plus, ni idéalisme, il met en avant les défis auxquels elles sont confrontées, l'importance de leur engagement dans la protection de leur communauté et souligne leur immense détermination et leur courage sans faille. C'est une œuvre qui m'a moi beaucoup touchée par sa sincérité, sa générosité et puis aussi où il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, ce qui rend la lecture agréable. Donc on a vraiment un récit que je trouve très éclairant, que je conseille très très franchement. Tout aussi important est, à mon sens, le film documentaire « Kurdistan, la guerre des filles » réalisé par Mylène Soloy, qui est sorti également en 2016 et qui met aussi en lumière le courage des femmes kurdes, des unités de défense féminine, on les appelle les YPJ, qui ont notamment combattu pour libérer des villes emblématiques comme Kobané en Syrie ou Sinjar en Irak, des mains de Daesh.
Je m'appelle Rosa Sela. Je suis de Kamishlo. Kamishlo est kurde. Je me suis engagée dans les YPJ fin 2011. Et c'est là que j'ai été formée. Dans cette guerre, on est un peu comme tous les peuples opprimés. On refuse cette situation. On veut la liberté, celle de notre peuple. C'est notre philosophie. Et dans cette même guerre, la femme s'est retrouvée en première ligne, aussi bien à Kobané que dans la région où nous nous trouvons. Tout le monde pensait que ce serait impossible. Nous, nous l'avons rendu possible.
Ici, c'est la révolution de la femme. Notre révolution du Rojava marque l'histoire.
Pendant les affrontements, on se rendait bien compte que Daesh ne supportait pas de combattre contre nous. On a souvent entendu les brigands de Daesh dire « Comment est-ce possible que ces petits bouts de femmes soient au front contre nous ?» Nous ne combattons pas que pour les Kurdes. Nous luttons aussi pour une Syrie démocratique. C'est ça notre vision de la liberté. Notre but n'est pas de rester dans les tranchées avec des armes.
Ces jeunes combattantes appartiennent à un mouvement de femmes qui s'épanouit sur les terres arides de Mésopotamie. Un mouvement qui invoque un âge d'or lointain, le néolithique, quand la femme était encore l'égale de l'homme, avant que le mâle, sédentarisé, ne devienne dominateur et conquérant. Révoltées contre la violence masculine, elles ont décidé de changer le cours de l'histoire.
Jin Jihan Azadi, femme, vie, liberté, donc le slogan des combattantes kurdes, qui est également d'ailleurs la devise du mouvement révolutionnaire iranien débuté en 2022. Le documentaire de Mylène Soloy offre une immersion dans le mouvement des femmes kurdes. Il explique comment elles se sont organisées depuis 40 ans, d'abord au sein du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, ensuite au sein des YPJ, au Rojava, quand la guerre civile syrienne a éclaté en 2011. Le film souligne la place centrale qu'elles ont occupée lors de la révolution féministe du Rojava et leur implication à tous les niveaux de l'administration autonome de la Syrie du Nord et de l'Est. C'est un film, à mon avis, très important qui donne à voir l'ensemble du projet émancipateur d'inspiration marxiste et libertaire porté par ces femmes armées et politiquement formées. Leur film leur rend un passionnant et vibrant hommage et célèbre leur lutte pour la vie, la liberté et l'égalité. À voir et revoir.
Finalement, la lutte, la guerre n'est pas réservée à un genre. Petit point technique et historique avec Véronique Garrigue.
Il n'y a pas une épée pour les femmes, il n'y a pas un arc pour une femme. De la même façon, un fusil, qu'est-ce qui fait la vaillance d'un soldat ou d'une soldate? C'est son entraînement qui va faire son habileté. D'ailleurs, les soviétiques, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'en sont bien rendus compte. Ils avaient un régiment de snipers, ils se sont rendus compte que les femmes écoutaient beaucoup mieux les consignes, étaient beaucoup plus patientes et donc beaucoup plus efficaces pour descendre les ennemis. Finalement, on retrouve la question derrière toutes les questions d'éducation. Comment est-ce qu'on a éduqué les filles? Donc, si on fait passer le message de douceur, d'être aimante, effectivement, forcément, elles vont devenir. Enfin, en fait, si on fait passer le même message auprès des petits garçons, peut-être que ça marcherait aussi les concernant. Et donc, les femmes, si on leur met un fer à repasser dans les mains très rapidement, sans doute, oui, elles repasseront mieux que les hommes. Si on leur met un fusil dans les mains, sans doute, peut-être qu'elles arriveront à être plus habiles que les hommes au même exercice, pour le coup. Donc, pourquoi pas dans un char? On les voit aussi dans des avions actuellement, dans des hélicoptères. Il y a des femmes qui sont aussi capables de manier des bateaux. Donc, ma foi. Alors après, est-ce que en soi, c'est mieux ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas une question technique qui empêcherait les femmes de faire la guerre.
Bon, alors, avant que nos auditeurs et auditrices ne paniquent et alertent l'ARCOM pour incitation à la violence, on calme le jeu. Vous l'aurez compris, comme toujours, hein, tout n'est pas noir ou blanc. On a bien vu au cours de cette émission que les femmes peuvent lutter, s'engager dans des armées, aller sur le front, résister. En tout cas, leur genre biologique ne les en empêche en rien. La résistance peut prendre, on l'a vu, aussi des formes multiples. Et il est important de conclure sur une touche d'optimisme parce que nous, on milite pour la paix, pas pour la guerre. À nouveau, un rappel historique et des faits pour montrer que les femmes ont un rôle à jouer dans les processus de paix. Tendez bien l'oreille, Véronique Garrigue nous parle même d'une figure locale.
Par exemple, au XVIe siècle, il y a une paix qui est signée entre François Ier et Charles Quint, pour mettre fin aux guerres d'Italie, septième guerre. En 1529, on l'appelle la paix des dames. Tout simplement parce que la mère de François Ier et puis de l'autre côté la tante de l'empereur, Marguerite d'Autriche, donc sont les signatrices du traité. Donc là, on utilise ces femmes. Alors aussi bien parce que elles peuvent représenter, elles ont la confiance des souverains. Le traité de Versailles, alors ça on le sait beaucoup moins, au moment où il y a les conférences de paix qui sont mises en place, il y a des femmes qui demandent à rencontrer le président Wilson. Et elles sont organisées en conférences interalliées des femmes. Pendant toutes les négociations, donc elles ont essayé de faire pression pour que des femmes soient intégrées justement aux négociations. Et puis, beaucoup plus récemment, à l'ONU, on s'est rendu compte que quand il faut traiter de la paix, où les femmes ont souvent été victimes donc des guerres, on oublie finalement leur souffrance et que la présence des femmes serait peut-être utile dans les négociations. Donc il y a la résolution 1325 qui a été prise et qui fait en sorte que les femmes soient de plus en plus souvent présentes. Alors, ce n'est pas simplement un vœu pieux, hein, c'est une réalité. Ils ont commencé d'ailleurs eux-mêmes à quantifier le moment, et à quel moment dans le processus de paix les femmes sont présentes, au début, au moment de la signature des traités. Donc, il y a une prise de conscience et des efforts qui sont faits à l'échelle internationale.
Véronique Garrigue, docteure en histoire moderne, spécialiste du genre dans les conflits armés, merci à elle. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions, un site, celui de l'association Mnemosyne, avec des podcasts à écouter. On parle de Jeanne d'Arc ou de Louise Michel avec un autre éclairage, c'est très intéressant. On vous mettra le lien dans le récap de l'émission. À noter aussi que la thématique de la scène nationale, le théâtre de Bourg, c'est héroïne et deux temps de rencontre qui vont prolonger cette émission. Mardi 30 janvier à 19h sur la figure de l'héroïne avec Delphine Barr qui est la responsable du musée de la résistance et de la déportation dans l'Ain. Donc ça va faire écho à ce qu'on a pu entendre dans cette émission. Et puis le mardi 13 février à 19h autour des représentations de la femme guerrière avec Marilène Patoumatis qui est préhistorienne. Donc elle va remonter vraiment très très loin dans l'histoire et notamment parler des Amazones, de ce mythe ou pas. Vous saurez tout si vous allez à ces conférences. Salem, shalom, peace, love, la paix sur vous toutes et tous, chères auditrices et auditeurs. Merci à vous, Joël, Michel et Natacha.
Merci.
Merci, Élodie.
Merci, Jimmy, à la technique. Et on se retrouve le mois prochain pour parler d'art au féminin. À bientôt.